Bonjour, bonjour à tous. Salut, j'espère que vous allez bien. Il fait très beau dehors. Profitez du temps qui passe et profitez du temps tout court. Il est 9h33. On se retrouve sur le portail des PropTech Digital Days, les PPD. Voilà, PropTech Digital Days, c'est bon ça quand même, hein, comme titre. Ça claque. Vous étiez très nombreux hier, vous êtes très nombreux aujourd'hui. On vous promet un programme sur mesure et un programme adapté à ce que vous souhaitez, bien entendu, le RENT avec une version 100% digitale. Covid oblige. Alors, je voulais vous dire, les amis, on vous a préparé une conférence pour démarrer cette journée du 1er avril. C'est pas un poisson, c'est une conférence qui s'appelle Urbanité, dessine-moi la ville de demain. On va essayer, si vous voulez bien, les amis, de prendre un petit peu de hauteur pour réfléchir sur ce qu'est la ville, sur ce qu'est sa propre urbanité, définir finalement ce qui fait socle et ce qui fait communauté entre nous tous, puisqu'effectivement, il nous faudra bien poser un peu un jour les questions de la cohésion à la fois sociale, mais aussi du régime dans lequel nous sommes. Il ne faut quand même pas oublier que la démocratie, par exemple, n'est pas quelque chose d'acquise, hein, ce combat au quotidien, elle n'est pas acquise, même si on est en paix, effectivement, en Europe depuis très longtemps, mais en fait, finalement, pas si longtemps que ça. L'immobilier, c'est quoi? C'est l'habitat, c'est la façon d'habiter, c'est la façon finalement de cheminer dans cette ville, de se rendre compte aussi qu'il y a des gens autour, vous voyez, par exemple le principe de la copropriété ou simplement le fait d'intermédier pour vous parce que vous êtes des agents immobiliers pour la plupart. Vous êtes des promoteurs, vous êtes des aménageurs, vous êtes concernés finalement par cette vision à la fois sociale, sociétale, je dirais même sociologique, de ce que représente l'habitat. Pour en parler, on a voulu un plateau. Alors moi, j'ai beaucoup de chance, pour vous dire, hein, franchement, j'ai un job en or, c'est de rencontrer des gens exceptionnels. Alors il y a quelqu'un que je rencontre, alors c'est un grand kiff, hein, faut le dire, philosophe. Il anime d'ailleurs une émission de télé qui s'appelle Habiter le Monde, c'est ça?
Oui.
Habiter le Monde sur Arte. Il s'appelle Philippe Simet. Salut Philippe.
Et bonjour.
Je suis ravi. Voilà,
moi aussi.
Voilà, il est philosophe, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Il a publié plusieurs ouvrages. Vous êtes un spécialiste de la philosophie urbaine, mais pas que. Vous avez une vision extrêmement intéressante. Je vous propose qu'on en parle avec vous et qu'on échange comme ça sur cette vision, qu'on donne un petit peu de hauteur. Et finalement, je voudrais juste vous dire une chose, les amis. Vous savez, souvent, c'est la religion du zapping, format court, bullet point, punchline, etc. À force de faire court, on ne fera plus rien du tout, je vous le dis. Hein. On va vider de sa substance toute idée et tout contenu, on est d'accord. Hein. Donc, à un moment donné, il faut quand même un peu prendre de temps. Je vous demande de bien nous écouter, de prendre le temps de participer à cette conversation pour qu'on fasse quelque chose de bien. Voilà, donc je suis ravi d'avoir Philippe avec moi. Avec aussi Cécile Bélanger.
Bonjour.
Comment ça va, Cécile?
Ça va super, merci.
Alors, Cécile, elle est architecte, elle est chef avec deux F.
Exactement.
Et un E, d'accord, de projets associés à la Belle Friche. Est-ce qu'on peut dire que la Belle Friche, finalement, c'est un concept d'urbanisme temporaire ou transitoire?
Tout à fait. C'est la base des activités de l'agence. Et on travaille aussi également sur des sujets de participation citoyenne, puisqu'on s'est rendu compte que c'était extrêmement complémentaire.
Alors ça, c'est un... Moi, je crois énormément, bien sûr, à ce modèle. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est aussi une façon, par contre, pour certains bâtiments qui sont laissés à l'abandon, de leur donner une seconde vie, voire une troisième vie. Ça, j'adore. Ça, vraiment, vraiment. Et des fois, des lieux surréalistes. Hein. Ça peut être d'anciens bureaux, des trucs complètement fous, dont on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse faire une buvette, un hôtel, du théâtre éphémère ou de la culture. Quoi. Ça, moi, je trouve ça extrêmement génial. Alors, quelqu'un que je connais bien... Bah, je l'ai rencontré il y a quelques années, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai une vraie admiration intellectuelle. Alors, je dis toujours de lui, bon, je le charrie parce que je dis qu'il est un peu prophète sur les bords, et je lui dis, j'espère qu'il n'a pas raison trop tôt. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait bouger les lignes dans le monde de l'industrie de la construction. Il est le président de Smart Building Alliance et président du fonds MAGE. Emmanuel François est avec nous.
Bonjour.
Comment
Bonjour
ça va, Emmanuel?
Ça va très bien, merci.
Ça me fait plaisir.
Ravi d'être ici, d'échanger avec ce panel de personnalités qui, à mon avis... qui sont très riches et très complémentaires.
Il y a quelque chose qui vous caractérise, hein, c'est la passion. Parce que la passion, finalement, rien ne peut résister aux accents de la passion. Alors quelqu'un, alors bien évidemment, on ne la présente plus, puisqu'en plus, elle dirige une partie des programmes de Territoria. C'est une amie, elle est urbaniste, elle est docteur en géographie, elle est aussi éditrice aux éditions ASM. Alors, ASM, je ne vais pas charrier cette fois-ci. ASM, Anne-Solange Muis, pour la collection Terre Urbaine, avec de très jolis livres, on va en parler tout à l'heure. Elle est avec nous. Ça va, Anne-Solange?
Oui, bonjour Sylvain, bonjour à tous.
On se voit toutes les semaines, hein, du coup, maintenant.
Bah, presque, hein, finalement, voilà. Ouais, ça y est.
Voilà. C'est sympa, finalement, de faire de la radio, de la télé.
C'est très chouette, ouais. Hein, c'est un métier chouette.
C'est pas Philippe qui va nous contredire.
Pas du tout.
C'est ça. OK. Alors, on va poser le décor. On va poser le décor très rapidement. Pour vous dire, les défis aujourd'hui sont nombreux. Le principal défi, on va dire les choses comme elles sont, c'est le défi climatique. La précarité hydrique en Afrique subsaharienne, par exemple, va projeter, selon l'OMS, plus de 80 millions de personnes qui déferleront sur l'Europe. Ça ne va pas bien se passer. Hein. Vous avez une précarité énergétique grave dans certaines zones européennes. On est un peu protégé, mais est-ce une illusion ? En tout cas, c'est un vrai sujet. La ville, avec la construction, avec aussi l'automobile, la mobilité, est le deuxième émetteur mondial de carbone. Voilà, je veux dire, la messe est dite, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Troisième point, cadre de réflexion, l'habitat, l'immobilier, que ce soit l'immobilier ancien, que ce soit l'immobilier neuf, ou l'immobilier qui est en cours de rénovation, ce qu'on appelle les promoteurs rénovateurs, sont aussi vecteurs d'émissions de carbone graves dans les villes. Il y a un vrai sujet sur la mobilité, sur la logistique, sur l'utilisation des remblais, etc. etc. Bon. Le troisième point, c'est la conscience, j'allais dire, collective. Je pense, vous me direz, alors je pose juste le débat, hein, après, hein, je vous laisse la parole, qu'il y a une masse critique, je ne sais pas si ça, une masse critique, un volume qui fait que c'est fait, c'est irréversible. Il y a un mouvement, même parmi des populations qui n'ont pas forcément peut-être une approche intellectuelle, culturelle ou hyper-urbaine, qui est très engagée dans ce processus. Alors, peu importe leurs intérêts, valorisation de leurs actifs immobiliers, économie d'énergie, etc., ça me va. Pourvu qu'on fasse des choses intéressantes. Dernier point, je voudrais qu'on échafaude comme ça, hein, qu'on phosphore sur ben c'est quoi finalement, avec tout ça, ce que sera le monde de demain, la ville de demain, l'habitat de demain. Je prends notre ami Thierry Paco qui dit finalement l'urbanité, c'est tout le monde. Il dit tout est urbanité. Ça, c'est la pensée de Thierry Paco. Quand on est même dans un village, dans un petit hameau, c'est l'urbanité, le principe d'urbanité. Donc on voit bien que la notion d'urbanité, remonter jusqu'à Thomas More aussi avec ce concept d'urbanité, Ivan Illich et d'autres grands penseurs du sujet, comment effectivement se représenter cette chose. Alors je voudrais, pour qu'on commence ce débat, commencer par toi, Anne Solange, pour poser le cadre, si tu veux bien, et questionner nos amitiés.
Oui, alors en fait, c'est vrai que je pense que ça serait intéressant de revenir, puisqu'on est quand même sur un événement autour de la technologie, autour de l'innovation, de revenir sur cette question tout simplement de l'innovation. Si on l'applique à la ville, qu'est-ce que c'est ? Donc je ne sais pas, peut-être que Philippe, vous pouvez déjà nous en dire deux mots sur vous, votre perception de l'innovation en ville. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui et demain ?
Je crois que c'est important d'avoir une vision élargie de ce qu'est l'innovation, qui ne se limite pas qu'à l'innovation technologique. Il y a aussi une innovation sociale qui consiste à trouver des réponses, des solutions aux grands problèmes de logement, de santé, de transport, d'alimentation, par la coopération des acteurs sociaux et notamment des habitants. Et vous en parliez tout à l'heure, il y a une conscience collective qui est en train d'émerger. On voit bien que les questions urbaines qui, il y a quelques années, en fait, ne rencontraient pas un large public, la donne a complètement changé. Aujourd'hui, des questions sur le pavillonnaire, le périurbain, ça fait la une des hebdomadaires. Donc, on le voit bien aussi dans la présence de nombreux articles dans les quotidiens. Donc, il y a une conscience collective qui a émergé autour du fait urbain ou autour de la condition urbaine, qui est une condition quand même largement partagée dans le monde. Et on assiste aujourd'hui à une montée en puissance, une montée en compétence des citadins qui revendiquent leur droit à la ville, pour reprendre l'expression d'Henri Lefebvre, c'est-à-dire leur droit à participer, en fait, aux réflexions, mais aussi aux décisions qui concourent à la production de l'urbain. Et on voit bien aujourd'hui que tous les professionnels de la ville ne peuvent plus revendiquer le monopole des compétences et sont obligés. Enfin, c'est-à-dire que c'est un secteur qui est obligé de réfléchir à la distribution démocratique des questions, des problèmes et de voir comment ensemble on peut y répondre.
Cécile Ménanger.
Alors nous, on se pose souvent la question de pourquoi est-ce qu'on doit innover ? les maîtres d'ouvrage qui viennent nous chercher nous demandent un peu cette injonction à l'innovation. Et quand on prend un petit peu de recul, c'est qu'on voit que la ville change et que la vision de la ville, en tout cas, change et qu'il y a une redistribution qui doit se faire, comme le disait Philippe, de la responsabilité, mais aussi du partage des données et de l'expertise, finalement, citoyenne. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de volonté de changer de la part des habitants, mais aussi de la part des décideurs, des villes, des promoteurs. Et malheureusement, les enseignements qu'on a aujourd'hui du Covid, du changement climatique, c'est que les lignes doivent bouger. Et donc cette innovation, elle doit se faire à tous les étages. Maintenant, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est l'usager finalement qui rentre au centre. On est passé un petit peu du concepteur, de l'architecte urbaniste qui pensait à la ville. Et maintenant, les sciences sociales sont vraiment au cœur des réflexions. Et c'est comment est-ce qu'on fait re-rentrer l'habitant dans cette notion de partage de la décision et de co-construction.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que pour la plupart de ceux qui nous écoutent, ce n'est pas forcément leur cadre naturel de réflexion, hein, pour être très clair, mais ce n'est pas un reproche. Ce sont des intermédiaires, ils achètent, ils vendent, etc. Mais on ne peut pas les dédouaner de cette responsabilité. C'est ça que je voudrais faire passer comme message.
Oui.
Vous voyez l'idée,
Anne-Solange. Parce que ça me fait penser à une chose qui est essentielle et qui concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde juste l'espèce vivante, et l'homme fait partie des espèces vivantes, on est quand même la seule espèce vivante qui ne respecte pas son habitat. En fait, un habitat, ce n'est pas son logement. Ça serait le terrier, si, ou d'une certaine façon, si on doit le comparer à d'autres espèces vivantes.
Mais c'est bon, vraiment... je vais me faire livrer des carottes. Là,
mais c'est l'espace de vie, c'est-à-dire l'air sur lequel en fait, l'espèce vivante va se développer, va se nourrir, va se reproduire, etc. Nous, on ne sait pas respecter notre terre. On ne sait que la consommer, l'utiliser pour un confort matériel qui artificialise ce sol. Et dans artificialisation, là, le mot artifice, qui est cette espèce de chose factice. Donc on ne revient pas, en fait, à cet essentiel qui est ce lien à la terre. Et ça, je pense que quand on réfléchit à la notion même d'habitat, on doit tenir compte qu'on est cette espèce vivante et que l'habitat, c'est juste notre milieu dans lequel, sans ça, on ne peut pas vivre. Et voilà. Et ça concerne n'importe quel métier.
Ce qui est intéressant, ce que vous dites d'un point de vue anthropologique, mais aussi d'un point de vue philosophique, c'est que finalement, l'activité de l'organisation animale n'est pas forcément nuisible à la planète. La seule espèce qui est finalement nuisible à la planète, c'est l'être humain. Ça pose question, bien évidemment. Non, mais c'est intéressant,
c'est
ça pose question.
Virus.
Non, parce que les millénaristes, comme les apocalyptiques et ceux qui prédisent la fin du monde, effectivement, disent finalement, reprennent les écritures. Parce que je vous rappelle que dans les écritures anciennes, il y a un très vieux texte qui dit qu'il valait mieux que l'homme ne fût pas créé. Et ce à quoi tout le monde répondait oui, effectivement. Et c'est une erreur. Je ne sais pas ce qui lui a pris ce jour-là. Mais bon, voilà. Non, mais c'est intéressant, mais on voit bien que... Je paraphrase comme ça, mais on voit bien que les activités humaines sont très néfastes. Hein. C'est très clair. Hein. Je veux dire, la chaîne Arte pour laquelle vous faites une émission fait beaucoup de documentaires sur la question. Emmanuel ?
Oui.
Alors, en ce qui te concerne, effectivement, tu as beaucoup travaillé là-dessus. Tu as même publié énormément de choses. Et toi, alors je vais juste essayer de résumer ta pensée, mais ça ne va pas être facile quand même. On a à peu près 15 ans pour rendre réversible. Après... on va dire que c'est cuit, quoi.
Non. Ah, c'est même pas 15 ans, on va dire. On a 10 ans. On a 10 ans pour... On a... Ah oui, pardon.
Le micro.
Oui, on a 2 ans pour... un an à 2 ans pour comprendre et 10 ans pour agir. C'est même ça, en fait. Donc,
Comment tu vois les choses? Alors, à la lumière des premières réactions que nous avons, ouais. C'est quoi les enjeux, finalement?
Les enjeux, j'en vois 6, hein. Il y a l'enjeu, effectivement, tu l'as nommé, climatique, mais il y a aussi un enjeu démographique. On voit bien les problématiques de population avec vieillissante dans le nord et hyper jeune dans le sud, des déséquilibres aussi générationnels. Un enjeu sanitaire, on est dedans, mais c'est pas que ça, c'est la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de toute la chaîne alimentaire. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Ce qui veut dire que demain, on va avoir des populations qui vont migrer parce qu'elles ne pourront plus vivre dans leur environnement. Hein, et cet environnement, ça peut même être une ville. Enjeu également économique. On voit bien qu'il y a une problématique de précarité économique avec des disparités économiques qu'on n'a jamais connues de tout temps. Même sous Louis XIV, Le roi était beaucoup plus proche de ses administrés. Aujourd'hui, c'est 10 fois, voire 100 fois, les différences de richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, on voit bien que ça crée des schismes énormes. Ensuite, c'est moi, j'appelle le défi identitaire. Alors, ça peut faire discuter, mais j'insiste sur ce mot. C'est-à-dire qu'en fait, on a une problématique d'identité du fait de la révolution numérique. Et on a perdu, quelque part, la notion de règles, de code de la société. Moi, je vois mes enfants aujourd'hui, ils me disent, on n'a plus de règles, on n'a plus de code, papa. Donc, c'est vrai que ça... Mais c'est pas que. C'est aussi les gens que je croise dans la rue. Et on voit bien qu'en fait, tout le monde est un peu perdu. Et c'est un vrai problème. Et donc, ce problème, c'est que la ville de demain, tout à l'heure, on va en parler, mais elle doit justement être un creuset, un endroit où on va retrouver, on va recréer ces codes, ces règles de manière commune. Et enfin, le dernier défi pour moi qui arrive et qui est, alors là, est immanent, c'est-à-dire qu'il est à 3 ans, c'est un défi éthique. C'est autour de la donnée, puisqu'en fait, on parle de ville intelligente, de bâtiment intelligent, c'est irrémédiable. Ceci étant, en fait, on voit que ça va très vite et qu'on ne maîtrise pas cette évolution. Hein, sur beaucoup de choses, mais notamment sur le numérique. Et quelque part, on ne s'empare pas de sujet majeur qui est la gouvernance de la donnée, une gouvernance qui doit être au profit du citoyen et non pas au profit de certains, de quelques entités, qu'elles soient entreprises, États ou autres organisations. Et ça, c'est un défi qui est majeur. Et c'est aujourd'hui, c'est la PropTech. Eh bien, je m'adresse notamment à tous les patrons de l'immobilier en leur disant attention, même vous, dans votre modèle, il faut que vous ayez effectivement une vision de la gouvernance de la donnée. Parce que c'est votre avenir en termes de business. Et puis, pour les administrés, pour les résidents, c'est votre avenir tout court. Donc, vous voyez, c'est des défis. Alors, je vais arrêter là-dessus. Mais simplement, tout à l'heure, Philippe a parlé de vision. Ben, c'est vrai qu'il faut une vision. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit des mutations majeures liées au numérique, avec les mutations des activités humaines.
Est-ce que c'est
tout à l'heure, sur l'ange, j'ai parlé de l'activité humaine.
Emmanuel, est-ce que c'est une transformation anthropologique? Parce que ça serait une logique.
C'est une transformation.
Est-ce qu'il n'y a pas une mutation nécessaire de la civilisation, une espèce de courant? Alors, c'est vrai qu'à notre échelle, ça nous rend schizophrènes, parce que ce qui caractérise notre époque, c'est le phénomène d'accélération.
Exact.
Qui était indolore pour les siècles passés. On le voit d'ailleurs avec la révolution industrielle qui s'est étalée sur plus de 80 ans. Et là, en moins de 15 ans, on subit finalement un choc terrible, un choc systémique, qui finalement n'est pas dans la temporalité, j'allais dire biologique, de l'être humain. Est-ce que c'est pas ça qui nous rend un peu désespérés?
C'est aussi ça, parce que ça va trop vite. Moi, je vais chaque année au CES, sauf cette année. Et au début, j'en avais plein les yeux.
Alors le CES, hein, je ne sais pas si vous savez, le CES,
Consumer Electronic Show. Vegas, un truc, voilà, c'est la messe de la tech.
Enfin, t'imagines le monde entier qui donne un rendez-vous à Las Vegas entre un casino et un bar, voilà. Où t'as mais t'as des mecs, enfin, c'est extraordinaire.
Oui, hein, c'est vrai que là, on parle de tout. Mais plus ça allait, plus je me disais, mais on est dans un monde de fous, parce qu'en fait, c'est la technique qui veut gouverner le monde, et qui va très vite. Et la peinture n'est pas sèche. Et donc là, je dis danger. À chaque fois, je revenais, je dis c'est génial, je vais m'inspirer de ce qui s'y passe, mais attention aussi, parce que ces technologies, on joue à l'apprenti sorcier, et plus ça va, plus on joue à l'apprenti sorcier, parce que de toute façon, en fait, c'est un cercle infernal.
Mais c'est prophétique.
Bah, je ne sais pas si
on a perdu, nous, on a perdu 12 000 émissions à l'incendie d'OVH, à Strasbourg. Sauf que nous, on a la possibilité de basculer, tu sais, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle une redondance. Sauf que les mecs, ils ont mis les deux bâtiments côte à côte. Donc le premier, il a brûlé, puis le deuxième aussi, quoi. Donc du coup, t'as plus rien. Ouais. Donc nous, on est en train de récupérer toute notre histoire. Mais imaginez, finalement, Philippe, des bibliothèques qui brûlent intégralement, etc. C'est intéressant ce que nous dit Emmanuel François. Sur la souveraineté des données. On va être très clair, il y avait 4 personnes qui se partageaient la richesse du monde au 19e siècle. Et c'est très, très, très intéressant, c'est qu'au 21e, il y a à peu près 4-5 personnes qui se partagent la richesse. Donc avant, on avait les géants de l'acier avec JP Morgan, Andrew Carnegie, John Rockefeller, etc., qui se partageaient l'acier, le pétrole, etc. Aujourd'hui, on a Zuckerberg, Bezos et consorts, avec Google, Amazon, Jack Apple, Mark, etc. Voilà, par exemple, qui concentrent à eux-mêmes, etc. Je reprends un autre chiffre, c'est celui de Google, qui a la trésorerie de l'équivalent de l'Afrique continentale, en trésor. C'est quoi l'urbanité dans tout ça, quand on voit ces géants-là? Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, quelque part, un facteur qui, finalement, quelque part, désespère finalement les gens, je crois, et provoquera, finalement, une transformation, peut-être, de la façon de gérer la gouvernance, la démocratie, etc. Philippe.
C'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Il y a des questions de gouvernance qui deviennent centrales. On voit bien qu'on est dans un moment où on est dans l'obligation de se réapproprier des éléments qui sont centraux de nos existences. Et les données, on est en train de prendre conscience que c'est un élément central.
Est-ce qu'un pays doit gouverner ses propres données? Je vais essayer de mettre les pieds dans le plat. Le fait que la France, par exemple, dans certains hôpitaux, ait des hébergeurs comme Amazon, Google ou Microsoft.
C'est un problème immense.
On est d'accord.
C'est un problème immense. Que des données sur des patients puissent circuler d'un bout à l'autre.
Vous savez que c'est le cas aujourd'hui. Hein.
Oui, on a des. Ouais. Puissent circuler d'un bout à l'autre de la planète, c'est un problème majeur. Donc je crois qu'on est dans un moment de basculement. On voit bien qu'on est obligé de se ressaisir de toutes ces questions-là, justement, dont on pensait que les technologies prenaient la charge. Mais en fait, il faut rester maître de ces technologies-là. Hein. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur l'incendie d'OVH, on peut se demander si les datas sont plus durables que les livres. Finalement, ça n'a pas tant de pérennité que ça, et ça nous glisse un peu entre les mains. Donc, est-ce que finalement, on ne les contrôle pas mieux dans les informations, pas mieux dans les livres?
C'est fascinant ce qu'on dit. Alors, je vais essayer de rester un peu quand même dans le sujet pour ne pas digresser. Je reviens avec toi, Emmanuel. Et Cécile, la particularité que vous avez à la Belle-Friche, c'est de redonner vie à des bâtiments. Et en tout cas, d'occuper un espace de façon différente. C'est pour ça qu'on appelle ça l'urbanisme transitoire. Le mot transitoire, ça ne me plaît pas. Je préfère l'urbanisme temporaire ou transition.
Enfin, bon. Oui, nous maintenant, on commence à préférer le terme d'urbanisme de transition, puisqu'en fait, on se rend compte que les méthodologies qu'on a appliquées dans le transitoire et dans le temporaire, ça trouvait un écho à l'échelle de toute la chaîne de fabrication de l'immobilier. Et donc, finalement, c'est des méthodologies de projet qu'il faut appliquer un petit peu de manière transversale.
Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots ce qu'est votre métier, en fait? Comment ça se passe?
Alors,
vous repérez un endroit, vous vous dites... Comment on fait?
Alors, nous, on travaille, en fait, on travaille à partir du territoire. On ne travaille pas forcément à partir d'un bâtiment ou d'un lieu, parce que ça dépend vraiment de la commande qui nous est faite. Mais nous, notre objectif, c'est de développer des outils qui autorise plus de souplesse et d'itérativité dans les projets et qui s'appuie sur les ressources du territoire. Donc c'est des mots un peu bateaux, mais concrètement, en fait,
exemple pratique, ça nous permettra de visualiser.
Alors, par exemple, nous, on travaille en ce moment beaucoup sur des espaces publics et sur des espaces publics en mutation. Donc là, on ne parle pas de bâti, mais en fait, on utilise les espaces publics en mutation pour faire des tests d'usage avec les habitants, pour préfigurer certaines choses.
C'est un square
Alors aujourd'hui, le projet que j'ai en tête, c'est des espaces sportifs qui vont devenir des futurs espaces publics, mais qui ne sont pas encore des espaces publics. Et donc,
d'accord.
Du coup, avec la ville de Paris, on travaille à accompagner la mutation d'usage à la fois auprès des habitants et se servir de cet accompagnement de la mutation d'usage pour les intégrer dans la fabrique de la ville. Et alors, moi, je rebondis juste sur les échanges qu'il y a eu juste avant sur les quelques personnes qui se partagent la richesse dans le monde. Nous, on travaille dans des quartiers qui sont des quartiers en renouvellement urbain, avec des publics qui sont extrêmement éloignés de ce genre de considérations.
Mais bien sûr.
Et qui ont des besoins tellement pragmatiques.
C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, qui n'ont pas conscience.
Non, pas du tout. Et qui sont très loin de tout ça et qui, finalement, sont un peu dépossédés de leur voix au chapitre, finalement, et qui ne peuvent pas s'exprimer sur ces sujets-là. Donc l'urbanisme de transition, justement, ça peut être un moyen de redonner voix à ce type de public qui sont à la fois, qui sont pas désintéressés, mais qui sont trop éloignés, en fait, et à qui on parle pas avec les bons mots et les...
Mais on va dire les choses. Vous parlez de... C'est une zone en rue.
Oui.
Hein, en rue 2, je pense qu'on est sur le programme en rue 2. Donc l'ANRU, c'est une formidable initiative. Hein. Ça a été initié par Jean-Louis Borloo, avec notamment tout ce qui touche au renouvellement urbain. Ce que vous dites me plaît beaucoup, parce que moi, je suis issu de ces quartiers, vous savez. Moi, j'ai appris à lire et écrire très tard, très, très tard. Bon, parce que c'est double peine hein, quand on est dans une certaine pauvreté, parce qu'il y a la pauvreté matérielle et celle de l'esprit. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est que vous nourrissez aussi l'esprit des gens en les considérant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépourvus, finalement, de culture. Ils ne sont pas dépourvus d'intérêt. Sauf que ça ne pénètre pas leur univers. Vous savez, c'est ce que je dis toujours, c'est comme le chocolat. Si jamais tu n'as jamais mangé un carreau de chocolat, tu ne peux pas savoir quel goût il a. Mais le jour où tu en goûtes un, tu es accro, tu es cuit. Et ben, il en va de même pour la connaissance. J'ai eu cette chance, moi, qui m'a extrait finalement à la fois de cette condition. Je parle bien d'extraction de conditions, hein, c'est volontaire ce que je dis. Et donc, dans ces quartiers-là, je trouve qu'il y a un grand espoir. Est-ce que vous pensez, Cécile, que finalement ces mutations urbaines pourrait, par exemple, lutter contre un phénomène qui, moi, m'inquiète énormément, on peut se dire les choses, qui est le phénomène des gentrifications, aujourd'hui, qui est en train de contaminer les grandes métropoles.
Alors,
c'est un vrai sujet. Hein.
Bah, c'est
vous entendez les maires, hein, vous entendez les maires, ils vous disent tous la même chose. Vive la mixité urbaine, ouais. On est à 27% SRU, etc., etc. Sauf que, franchement, j'ai les statistiques, là, dans les faits, ça marche pas, hein.
Je pense que c'est extrêmement compliqué de pouvoir se positionner là-dessus. Les dispositifs qu'on met en place s'attendent à répondre un petit peu à ce sujet-là. Mais la réalité, c'est que dans les phases de grands travaux comme ça, les gens déménagent puisque les bâtiments sont réhabilités. Et après, est-ce qu'ils auront la possibilité de revenir dans leur quartier ? En fait, on parle à des échelles de temps qui sont tellement longues qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir du recul là-dessus. Je pense qu'il y a des outils pour lutter contre ces phénomènes de gentrification.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les métropoles, on va parler des 15 premières métropoles françaises, celles que vous connaissez le mieux à Paris, on est dedans ou pas ? Vraiment ? Non, mais quand vous dites que vous êtes dedans, on n'est pas dans la mixité à Paris. Hein.
On ne l'est pas.
On ne l'est pas. Hein. Vous pensez qu'on est dans une mixité à Paris ?
Bah, en tout cas, nous, moi, dans les quartiers dans lesquels je travaille, oui, mais d'accord. Parce qu'on travaille dans les quartiers en NPNRU.
Oui, je comprends.
Ma vision, c'est difficile pour moi d'avoir des propos très généralistes.
Oui, je comprends. Oui, par rapport
sur des cas opérationnels.
Oui, moi, je dispose de chiffres parisiens et franciliens sur les 16 départements d'Île-de-France.
Si on parle à l'échelle de la métropole, effectivement, non.
C'est ça. Non, ok, je comprends.
Après, le meilleur moyen, si je peux me permettre, de lutter contre la gentrification, c'est à la base de ne pas faire du foncier un outil de rentabilité économique. Si on arrête de considérer le mètre carré. De se faire de l'argent tout simplement sur le mètre carré, ben, on résolvera aussi une partie de la gentrification. Aujourd'hui, le problème, c'est...
Oui, mais c'est un marché.
Je m'excuse, parce que là, on s'adresse aux promoteurs, visiblement.
Non.
Mais le vrai problème, il est aussi que si on revoyait en tout cas le métier de la promotion immobilière et qu'on l'intégrait davantage dans la réflexion sur la ville et l'urbanisme, je pense que ça changerait quand même un certain nombre de choses parce que la clé, elle est quand même beaucoup sur ce métier-là. Hein.
Philippe ?
Oui, en fait, l'architecture n'est pas qu'un site stratégique d'accumulation du capital. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de faire société, de la phase du chantier jusqu'au moment où on l'habite. Donc, oui, c'est un marché, mais en même temps, la promotion immobilière, elle peut aujourd'hui porter des valeurs démocratiques qui sont reconnues dans l'ensemble de la société. Et donc,
beaucoup de promoteurs le font pour leur reconnaître.
Oui, absolument. Oui. Donc, il y a des changements de paradigme qui sont en train de s'opérer, oui, des façons de concevoir son métier qui sont en train d'être redéfinies maintenant. Et c'est pour ça que ce moment est important.
Mais ce n'est pas encore la majorité.
Emmanuel ?
Je rebondis sur ce que disait Solange. Mais bon, c'est un peu un mot de la fin, mais ce n'est pas grave. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une société et des modèles économiques, une économie de la propriété. Et cette économie de la propriété, d'une manière générale, on voit où elle nous a amenés. C'est le monde de la finance qu'a dénoncé François Hollande. Mais je ne suis pas là pour dénoncer le monde de la finance. Je dis que le monde de la finance, il va subsister tel qu'il est. Mais en fait, aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère des enjeux actuels, il est urgent de démarrer une autre économie alternative, une économie basée sur l'usage et non plus sur la propriété. On sait que l'économie basée sur la propriété, elle est destructive. Pourquoi ? Parce qu'elle est spéculative. Et on est juste sur le monde de la finance.
C'est quoi une économie ?
Je finis.
Mais c'est quoi une économie sur l'usage ? C'est quoi un exemple ?
Une économie sur l'usage, eh bien, c'est-à-dire que, en fait, un terrain, une commune, au lieu de le vendre à un promoteur, elle le met à disposition et elle est rémunérée sous forme de token. Et plus l'usage augmente, l'usage du bâtiment augmente, plus la valeur du token augmente.
C'est un
jeton, c'est un moyen d'apprécier cette valeur. C'est-à-dire qu'on décorrèle...
C'est pas un bitcoin quand même.
Non. Ça n'a rien à voir. C'est une monnaie locale, mais une monnaie locale qui est décorrélée de l'économie actuelle. Alors aujourd'hui, mais décorrélée, c'est-à-dire qu'on ne la transmet pas en euros. C'est un, une, voilà. Je peux vous donner un exemple. Microville 112, c'est un projet qui voit le jour. C'est la friche de la base aérienne 112 au nord de Reims. Eh bien, l'État a mis à disposition la base aérienne à la base de Corcy, et la base de Corcy va mettre à disposition ce terrain à une SIC, à une sorte d'aménageur, et ça sera une rémunération sous forme de token, justement. Vous voyez, donc je ne suis pas en train d'inventer un truc utopique. Aujourd'hui, on peut le faire. C'est ce que je dis, moi, aujourd'hui, à ma commune, et que je dis à d'autres communes. J'étais à Nevers il y a peu de temps. Je suis à d'autres communes.
Les nouveaux OFS, par exemple, est-ce que c'est ça, finalement? La loi Laglaise qui sébarre le bâti du foncier, est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'on, finalement, on ne va pas supprimer le droit de propriété pour aller vers une espèce d'amphithéose?
Oui, mais c'est aller plus loin que ça. C'est aller plus loin que ça.
Oui, mais enfin, ça peut déjà
commencer. On parle du foncier, mais c'est demain, dans une collectivité, dire, bah, tiens, ceux qui veulent investir, par exemple, dans une centrale de production photovoltaïque, stockage énergétique, allez-y. On fait un projet public, privé, particulier. Et chacun a une part dans cet investissement. Et donc, au fur et à mesure, il est rémunéré sur l'usage, effectivement, de l'énergie. Et plus, effectivement, ça sera utilisé, bah, plus, effectivement, il aura de la version. Et en fait, on peut recréer, c'est ce que je dis, une économie alternative où on va, en fait, valoriser toutes les énergies, à la fois les énergies humaines, fondamentales, parce qu'aujourd'hui, on ne les rémunère pas forcément à hauteur, mais aussi les ressources, mais aussi l'investissement. Vous voyez, donc c'est complètement différent. C'est un nouveau modèle. Moi, c'est ce que j'appelle la débutance versus la finance. C'est-à-dire comment on démarre un projet et non pas comment on le finit. Et donc, on ne le finit jamais. Où on le finira peut-être un jour. Mais en tous les cas, c'est comment tous les acteurs sont impliqués dans ce projet pendant toute la durée du projet. Et ça permet d'impliquer tous les acteurs et de faire du bon travail. Et d'être impliqué sur les externalités positives, quelles qu'elles soient. Ça peut être la santé, ça peut être les économies d'énergie, ça peut être plein de choses. Ça peut être les services à la personne.
Alors justement, on va reprendre le principe effectivement. Alors moi, je vous avais prévenu. Hein. C'est intéressant. Ce qui est passionnant, et en même temps intellectuellement, c'est un défi, Philippe, de réfléchir là-dessus, c'est que je pense qu'on vit une époque exceptionnelle, rare dans l'histoire des hommes. Je pense qu'on vit un moment rare dans l'histoire des hommes. Nous sommes la seule génération qui a connu la fin d'un siècle, la fin d'un millénaire et la fin d'une décade. C'est très rare dans l'histoire. Bah, ça arrive une fois par millénaire, quoi. Bon. Donc, et c'est tombé sur nous. Donc on joue au loto tout à l'heure, hein, je préfise. Alors, Cécile, j'ai fait plusieurs émissions sur l'urbanisme transitoire. J'ai livré il n'y a pas très longtemps un immeuble au 44 rue Planchat dans le 19e arrondissement, 19e ou 20e arrondissement, fait par Novaxia. Vous connaissez Novaxia? Alors, je vais prendre l'exemple de Novaxia, qui se veut pionnière en la matière, qui vient de créer un fonds en unité de compte pour investir sur l'urbanisme temporaire, la transformation des immeubles, exemple, les bureaux qui deviennent des logements, et tous les immeubles qui sont parfois laissés à l'abandon. C'est un truc incroyable, mais c'est vrai, il y a à Paris des immeubles laissés à l'abandon. J'hallucine hein, quand tu sais combien c'est dur de se loger dans la ville. C'est devenu une activité. Je voudrais qu'on reprenne, non pas les parties communes sur lesquelles vous êtes effectivement les trucs, mais à l'échelle des bâtiments. Est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que vous pensez que c'est une alternative au logement des personnes et au logement digne et décent des personnes dans des conditions économiques qui sont favorables au lieu d'aller à 20, 30, 40 km de son emploi, etc., où on repousse la pauvreté à l'extérieur des villes ou en troisième, troisième, cinquième couronne, comme c'est le cas aujourd'hui.
Vous voulez dire avec des dispositifs de transition?
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative, des nouveaux métiers, parce que c'est un nouveau métier quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un espoir pour la ville de dire, OK, c'est bon, on n'est pas tous Rockefeller, on n'est pas tous blindés de chez blindés, on a aussi besoin tous de se loger, quoi. Et qu'à un moment donné, ça devient...
Bien sûr, ça peut être une solution.
Des gens, mais par condition, qui s'agglutinent autour de leurs propres conditions, etc. Ça me saoule.
Voilà. Ça peut être une solution, mais en même temps, je trouve que ça soulève des problèmes qui sont plus profonds, plus ancrés. Et donc, quand on met en place des dispositifs transitoires pour répondre à ces besoins de logement urgent, ça veut dire que derrière, il y a un sujet plus pérenne, finalement. Et donc, l'outil urbanisme de transition peut y répondre à une échelle de temps assez courte. Mais il y a une nécessité aussi de se re-questionner sur les modes de faire de manière pérenne. Et c'est pour ça que l'urbanisme de transition, ça trouve des échos sur le sujet du logement, sur le sujet des bureaux, sur le sujet de l'activité, de manière très transversale. Mais finalement, ça veut dire que derrière, il y a une problématique qui est plus profonde et plus ancrée et qui appelle les institutionnels et les grands acteurs privés à produire des réflexions sur le plus long terme. C'est une amorce, en fait. Et puis finalement, derrière, il va falloir trouver des moyens de faire en sorte de répondre à cette demande de manière plus pérenne.
Philippe, d'un point de vue philosophique, si je dis une connerie, vous me le dites. Hein. D'un point de vue philosophique, le fait d'intéresser, par exemple, des agents immobiliers, vous savez, qui achètent, qui revendent, un gestionnaire de patrimoine, vous savez, un administrateur de biens, ouais. Un syndic de copropriété, tiens. Des entreprises qui n'ont pas forcément un service R&D, un service réflexion, etc., etc. Ce qu'on dit là, est-ce que, je ne veux pas dire que ce n'est pas à leur portée, mais ce que je veux dire, comment on peut faire pour embarquer ces gens-là dans une vraie réflexion citoyenne dans laquelle ils deviennent acteurs, finalement, dans leur métier? On l'a dit tout à l'heure, les promoteurs s'y sont mis, ils ont réintégré des valeurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvais... Il y en a certains, c'est bon. Mais comme dans tous les métiers. Mais comment on fait? Ou est-ce que finalement, quelque part, on se barbote et on se dit, bon, maintenant, de toute façon, on peut se dire très bien, mais ça ne suivra pas plus bas, quoi.
Non, je pense que ça va suivre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie que ça change dans tous les métiers, en fait. On voit qu'il y a une énergie, on voit qu'il y a des attentes qui sont quand même incroyables. Maintenant, il faut se mettre autour de la table ensemble. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un espace... On parlait de gouvernance partagée. C'est-à-dire s'il n'y a pas un espace qui nous permet finalement de confronter des points de vue et des savoirs et des savoir-faire, si on réfléchit ou on travaille tous en silo, quel que soit finalement son métier, hein, ça ne peut pas marcher. Donc à un moment donné, il faut créer ces espaces qui sont des espaces de dialogue, mais aussi de confrontation.
C'est là que la techno finalement devient intéressante, parce que le BIM, par exemple, le Building Information Model, c'est aussi une façon de réunir toutes ces disciplines. Hein. Pardon ? Oui ? Oui, tenez.
Oui. Ouais. Non.
Oui, mais qui réunit de façon, je trouve, très, très abstraite. On a besoin d'espaces politiques, en fait, de discussion.
C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il faudrait modifier la façon dont les politiques gèrent la relation avec le peuple? Est-ce que,
non, il faut modifier la façon dont on travaille ensemble.
Ouais,
parce que la production de la ville, c'est politique.
Votre collègue Paco qui dit, il a fait une émission, c'est l'écologisation des conseils municipaux. En fait, oui. Il dit, c'est simple, on écologise tout, on réduit le nombre de conseils municipaux et on leur attribue des grands secteurs. Mais est-ce que c'est une façon... Est-ce que dans la réinvention de gouvernance, il faut aussi changer le modèle de gouvernance?
Oui, il faut changer les modèles de gouvernance. Mais il y a plein de gens qui réfléchissent aujourd'hui sur ce que sont les gouvernances partagées et les façons dont on peut travailler ensemble. Donc, je pense que c'est vers ces modèles-là qu'il faut se diriger. Le BIM, c'est une réponse technique. Pas une réponse politique.
Alors, je suis en train de voir là. Mon ami Baptiste, il est 10h11. J'ai jusqu'à quelle heure, là? Parce que je crois que vous avez une heure, mais bon... Ah bon? D'accord, je peux pas aller plus loin. Bon, jusqu'à 20, ça va? Allez, d'accord.
Mais en fait, okay. ce que dit Philippe, et c'est la prise en compte de la transversalité, c'est-à-dire que c'est une approche par la méthode et pas par le faire. C'est-à-dire que plutôt que de dire là, on va mettre un sparadrap ici parce qu'en fait, le bâtiment ou n'importe quoi, là, il y a un problème, je mets un bout de sparadrap, c'est l'idée que d'intégrer que en fait, tout fonctionne sur la forme d'un système. Alors oui, tout le monde le dit, oui, c'est systémique, mais en fait, dans les faits, personne n'a une approche méthodologique. Par une pensée qui est transversale, c'est-à-dire non plus se borner à sa discipline, à son petit métier, à sa petite compétence, mais essayer en fait d'ouvrir son esprit, d'ouvrir sa réflexion à prendre en compte une dimension qui soit pas seulement celle d'une échelle réduite, qui serait sa petite personne ou sa petite maison ou son îlot urbain ou son quartier. Non, c'est vraiment d'intégrer que les choses fonctionnent et sont liées les unes entre elles. Et la gouvernance, c'est ni plus ni moins qu'un mode de gestion et de prise en considération que justement, les choses fonctionnent sous la forme d'un système.
Alors, je voudrais ajouter quelque chose. Cette année, en 2020, je ne sais pas si vous avez vu, en mai 2020, à deux endroits de la planète est devenue hostile à l'homme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça. Donc, au Pakistan et en Arabie Saoudite. D'accord. La TW, vous savez, c'est le rapport entre l'humidité et la chaleur, est arrivé à un point dans lequel, en quelques heures, les organes humains se dégradent complètement et on veut la mort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une intolérabilité finalement à l'oxygène qui est produit sur place, qui devient extrêmement nocif, et l'incapacité. Et ça a duré 2 heures. Donc l'article est paru dans Scientist il y a quelques mois de cela, et c'est un phénomène qui a été observé, donc ça a duré un peu de 2 heures, il a été mesuré. J'ai été fasciné par cet article parce que c'est comme si finalement la Terre nous parlait en disant « Ok, tu sais quoi là, la messe est finie, je te donne un coup sur la tête et je te montre comment je peux faire en quelques heures, parce que si tu ne fais pas quelque chose, moi je survivrai, mais toi tu seras mort. »
Si on revient à ce qu'on fait, nous, le secteur du bâtiment, ouais. C'est un des plus polluants. Donc, c'est évident que toutes nos activités, elles concourent à détruire très rapidement et très activement les milieux habités par les humains et habités aussi par, bien évidemment, les non-humains. Donc, on est dans l'urgence de réfléchir à d'autres façons de construire, à d'autres façons de consommer des ressources. C'est-à-dire qu'il faut construire en s'inscrivant dans les dynamiques du vivant. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Donc
finalement, l'agent immobilier, l'administrateur de biens, le promoteur, il a une vraie, vraie responsabilité. C'est ça qu'on doit dire aussi, qui doit ressortir de tout cela. Chacun à son niveau. Est-ce qu'il y a un mouvement collectif ? Chacun à son niveau. On a commencé par un truc tout bête qui faisait chier les gens au départ, mais maintenant, c'est acquis. C'est le tri des déchets, par exemple. C'est aussi... non, pas tout à fait d'accord.
On va pas le temps de...
Ça sera l'objet d'une autre... Ça sera l'objet d'une autre conférence. Mais effectivement, il y a des alternatives. Ce qui me frappe, et là, je m'adresse encore une fois aux philosophes, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ne perçoivent pas cette fin-là. Pour eux, on est un peu allumé en disant non, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. On peut dire que non, en réalité. C'est comme un régime, c'est jamais acquis, rien n'est jamais acquis.
Ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis les conséquences, là, vous en parliez à l'instant, on les voit quasiment devant nous. Donc là, il y a la nécessité de travailler autrement. Et nous sommes tous comptables, en fait. De ce que nous faisons. Donc, bien évidemment, en tant que professionnel, moi, je parlais au départ là, du droit à la ville et de la montée en compétence des citadins, ils vont se tourner vers nous pour demander ce qu'on a fait. En tant que professionnel, en tant qu'expert, en fait, de la ville, du bâtiment, voilà. Et des solutions, il y en a. Moi, je suis un militant de la première heure pour de l'économie circulaire. C'est-à-dire que des façons...
C'est pas un vœu pieux, hein, l'économie circulaire. Ça fonctionne vraiment.
Ça fonctionne vraiment. J'étais hier soir sur le chantier des canaux qui est à la maison de l'économie circulaire dans le 19e arrondissement et qui est en train d'être rénové. Et là, il y avait tout un tas d'entreprises qui montraient comment, avec des portes, des chutes de textiles, de la terre de chantier, on pouvait reconstruire une partie du bâtiment. Tout ça dans un rayon de 30 km.
Ah, c'est génial.
Voilà. Donc, où est-ce qu'est mis l'argent ? Il est mis dans les savoir-faire. Voilà, il est mis dans la juste rémunération du travail et pas dans un produit qui va être revendu pour faire de la plus-value. Donc voilà, il y a d'autres façons de faire.
Moi, je pense que les promoteurs ont vraiment intégré cette notion, notamment la logistique, l'utilisation des remblais, etc. Ça a l'air bête. Moi, j'ai vu un immeuble avec des murs en briques se construire avec la terre du chantier.
Ah oui ?
Parce qu'il y avait une briqueterie qui était à 5 km. C'est extraordinaire. Je trouve ça génial. Même des immeubles qui ont été construits avec un système de ventilation quasiment naturel, qui réduit finalement l'obligation d'avoir de la clim, d'utiliser de l'énergie, etc. C'est vraiment possible. Cécile ?
Ça, c'est des dispositifs constructifs qui sont très intéressants. Et puis, il y a aussi tous les dispositifs plutôt de projets qui sont en train d'être mis en œuvre, notamment les territoires pilotes de sobriété foncière, où on réfléchit à comment est-ce qu'on peut recycler le foncier et les bâtis, comment est-ce qu'on l'identifie, comment est-ce qu'on outille les collectivités pour faire du projet sur ces sites-là. Et ça, c'est aussi être très en amont du processus constructif, mais qui permet de contribuer à cet urbanisme circulaire.
Emmanuel, là, il nous reste un peu moins de 5 minutes pour conclure, ouais. Mais c'est Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à des populations qui aujourd'hui quand même opèrent, sont les plus importants dans la ville, hein, puisqu'ils achètent, ils revendent, ils construisent, pour que justement on soit raccord finalement avec ces défis à la fois climatiques mais aussi sociétaux?
En fait, je vais repartir sur ce qu'on a dit en début, c'est que les villes, aujourd'hui, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on s'attaque aux villes, on répond en grande partie aux problématiques. Et si vous voulez, c'est mathématique. Et la piste, elle est évidente. C'est qu'aujourd'hui, les bâtiments, d'une manière générale, sont utilisés 30% du temps. Et les véhicules, 4%. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère du partage, à l'ère de l'usage, bah, si vous voulez, on a une piste, on a un boulevard, c'est un remblai, une autoroute pour justement réduire l'empreinte carbone des villes. C'est en augmentant l'usage des bâtiments, l'usage de la mobilité, l'usage d'une manière générale de toutes les ressources. Et ça veut dire quoi?
D'ailleurs, le coworking,
ça veut dire
finalement,
qu'en fait, c'est pour ça que je parlais de débutance, c'est qu'il faut changer de modèle, aller sur un modèle tourné vers l'usage. Et donc, si on s'adresse au promoteur, eh bien, le promoteur, s'il fait un bâtiment dont le taux d'usage passe de 30% à 60%, ben vous imaginez, effectivement, il valorise deux fois son taux d'usage. Donc c'est beaucoup plus que de faire une petite plus-value sur du foncier ou sur un bâti. Donc qu'il fasse une petite plus-value, d'accord, mais qu'il soit associé...
Quand vous parlez des bâtiments...
Qu'il soit associé à cette...
Emmanuel, quand tu parles des bâtiments, 30% d'occupation, tu parles de l'immobilier d'entreprise?
Non, mais tout.
Globalement, mais c'est incroyable.
Même une école. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça va dans le sens de Cécile.
Vous êtes d'accord avec ces chiffres?
Absolument.
Et ça va dans le sens de Cécile, c'est de dire qu'effectivement, il faut maintenant arrêter d'avoir des bâtiments rigides, figés, mono-usage, dédiés à une entreprise. C'est fini, c'est has-been. On voit bien qu'aujourd'hui, avec le Covid, se précipite. Voilà. Il faut aller vers des bâtiments multi-usage. Et il faut raisonner
bureau,
d'un côté
hôtel,
les activités humaines.
Logements, des trucs comme ça, non?
Bien sûr.
Ça
oui. Et en fait, ce qu'il faut, c'est raisonner les activités humaines parce qu'elles changent. Donc, comment on soigne, comment on enseigne, comment au commerce, comment on va travailler. Et ensuite, voir dans quelle typologie de bâtiment on va faire ces activités avec des bâtiments que j'appelle hybrides parce que notre société même est en train de devenir hybride. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de troisième révolution urbaine. Et pour moi, c'est l'enjeu du 21e siècle. C'est comment on va accompagner cette mutation de société dont tu parles, que j'appelle civilisationnelle, pour aller vers des villes, des bâtiments, des villes hybrides, pour une société hybride. C'est fondamental. Et donc, bien entendu, avec une nouvelle économie, hybride aussi, finance et débutance.
Intéressant, je pense que tu es sur un ouvrage, là. Il y a un truc qui va sortir.
Comment ?
Il y a un truc qui va sortir.
Ah oui, je suis sur un livre.
Ouais, à mon avis, il y a un truc qui va sortir. Ça tombe bien, on a une éditrice avec nous. Alors, on va devoir conclure cette intervention qu'on a voulu. Alors, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Hein. J'espère que vous nous ferez le plaisir de tous revenir. Je voudrais qu'on fasse une conclusion comme ça. Je vais même faire une petite conclusion sur, finalement, les idées forces ou les idées premières qu'il faudrait, voilà, qui pourraient nous inspirer. Voilà. Essayer de donner un peu d'espoir, tout ça. Mais je voudrais juste citer quand même ce livre, voilà, Mésologie urbaine aux éditions Terre Urbaine, dirigé par notre ami Anne Solange. Aussi Philosophie du marcheur. Alors j'ai beaucoup de bol, je suis dédicacé, vous voyez, c'est extraordinaire. Je vous engage aussi bien évidemment à regarder la télé sur Arte. Avec Habiter le monde, avec notre ami Philippe.
Un très beau documentaire, quand même, sur le Grand Nord.
Absolument. Et en plus, Philippe, vous avez fait quoi, le tour de la planète, là?
Bah oui. Oui, j'ai un bilan carbone désastreux. mais j'ai essayé de montrer d'autres façons de construire et d'habiter.
Ça serait intéressant.
Et tu roules en vélo, donc ça.
Non, mais ça serait intéressant d'avoir son bilan carbone. En tout cas, c'est génial ce que vous faites parce que c'est vraiment. Regardez-le. C'est juste top. Pour vous procurer vos bouquins, comment on fait, Philippe Simet?
Dans toutes les
bonnes librairies. Il y a un blog qui porte votre nom, Philippe Simet.
Ah oui, mais il ne doit pas être très à jour.
Oh oui, bon, oui, il est pas mal. Hein.
Ah bon, ah d'accord. Ah
oui, je l'ai trouvé pas mal. Vous avez fait du marketing en philosophie ou quoi?
Pas du tout.
Voilà, un petit mot de conclusion pour chacun. J'étais ravi de vous avoir. J'espère que, effectivement, ça va vous appeler aussi, à vous aussi qui nous écoutez. Mais encore une fois, c'est l'exercice de la réflexion qui compte le plus. Moi, ce que je dis, c'est que la vitalité d'une démocratie, c'est notre capacité à débattre, de façon bienveillante. Ça ne veut pas dire complaisante, hein. On a le droit de s'opposer, mais avec quand même une certaine bienveillance. Philippe, si on devait comme ça, quelques mots d'inspiration pour à ceux qui nous écoutent, mais aussi sur l'avenir de, justement, cette ville de demain tant attendue.
Je crois que le temps de la construction en neuf pour des bâtiments mono-usage est révolu. Elle n'est pas révolue dans les pratiques.
Compris.
Oui, elle est résidentielle. Si c'est votre résidence principale, non, les résidences secondaires dans lesquelles on ne va pas.
C'est vrai ce que vous dites.
Oui, c'est révolu, c'est là dans les pratiques, mais c'est déjà plus dans les têtes, je pense, c'est dans les têtes de plus en plus de monde. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de réfléchir comment on peut apprendre à mieux partager l'espace, à mieux partager ses ressources, avec, bien sûr, les autres êtres humains, et notamment tous ceux qui vont venir dans les espaces qui restent viables, mais aussi avec les non-humains, avec qui nous formons la communauté des êtres de nature.
Et
donc comment on peut, construire en préservant ces dynamiques du vivant qui rendent la Terre habitable.
Merci beaucoup, Philippe Simet. Cécile Bélanger.
Alors, moi, je vais rajouter quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais qui est l'échelle du temps aussi dans les projets urbains, qui, je pense, est très complémentaire de la réflexion sur les usages. Et c'est puisqu'on s'adresse à des professionnels de l'immobilier, c'est que toutes les échelles de temps sont exploitables pour rendre la ville plus soutenable et plus inclusive. Et notamment, le temps du projet urbain est très très long. Le temps vécu par les habitants, il est complètement contracté et très très loin de ce temps du projet urbain. Et donc, en réaccordant ces échelles de temps, on peut donner plus de sens et contribuer à une ville plus durable pour demain.
J'aime beaucoup. Vous avez un fan. je prends la présidence du fan club. Emmanuel.
Eh bien, pour finir, je dirais qu'on en a beaucoup parlé, mais j'insiste dessus parce que ça viendra de lui. C'est impliquer le citoyen. Impliquer le citoyen parce qu'en fait, il est effectivement... Aujourd'hui, on a les moyens de rendre un citoyen plus responsable, plus impliqué. C'est la force du numérique. C'est ce troisième état qui arrive. Et donc, grâce à ça, on peut changer effectivement les gouvernances. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis un apôtre du bottom-up, hein, à la versus top-down, avec
haut,
une approche
du haut vers le bas.
Ouais, une approche girondine plutôt que jacobine, et notamment sur la gouvernance de la donnée. C'est clair que si on va vers une gouvernance jacobine de la donnée, c'est un désastre.
Ouais.
C'est une révolution mondiale. Je ne sais pas quand, mais ça
quand
sera
on dit jacobine, c'est centralisé. Hein,
et donc, c'est aller vers la République, mais dans le sens étymologique du terme, res publica, c'est-à-dire le droit au peuple.
Ok. Fais de la politique, Emmanuel. Fais quelque chose. J'adore. Moi, j'aime beaucoup. Emmanuel François, le président de Smart Building Alliance. Ce monsieur a quand même emmené les 350 industriels. 400 ?
500 membres, et puis là, on démarre...
500 industriels parmi les... Voilà, c'est la
crème. On démarre d'autres associations en Europe.
Et un fonds de dotation qui est reconnu d'intérêt général aussi.
Le fonds MAGE.
Voilà, le fonds MAGE pour la...
Pour le manifeste.
On va le montrer, le manifeste. On va le montrer à la caméra. Voilà. On le montre à la caméra. Faites un gros plan, monsieur Baptiste, monsieur Plouchard. Faites un gros plan, voilà. Le manifeste MAGE, voilà. je vais le montrer.
Bon,
merci pour moi. Voilà, je le montre ici et là. Voilà, le fonds MAGE, lisez-le.
Et l'objectif, c'est d'accompagner des villes sur ces... se repositionner par rapport aux enjeux.
Merci. Emmanuel. Anne Solange.
Pour compléter, parce qu'il faut compléter.
Hein,
ouais, c'est très bien, et je dirais que je suis d'accord évidemment avec tout ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas, peut-être une ville généreuse. Je trouve que généreuse en espace public, en espace d'intérieur. Enfin, on le voit avec la crise qu'on traverse. Hein, je veux dire, les citadins sont les premiers touchés. On a des petits logements et souvent nos logements sont finalement relativement inconfortables, c'est-à-dire peu spacieux, etc. Donc, revoir cette notion d'espace et de faire des sacrifices. Parfois, on parlait de la voiture qui est occupée 4% du temps, mais par contre, elle occupe 100% de l'espace public. Donc, il y a un moment donné
absolument.
Où si on pouvait gagner de la place en enlevant quelques voitures, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup, mais moi, c'est une idée que je trouverais justement généreuse. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à Philippe Simet, philosophe, enseignant, marcheur aussi, et qui découvre le monde. C'est extraordinaire de traverser le monde. La prochaine sur Arte, c'est quand on peut le dire ou pas? Vous ne savez pas encore?
C'est dans un an.
Dans un an.
Je fais un prochain 52 minutes sur... j'espère, sur la Patagonie et sur la question de la route. Les routes qui nous donnent accès, mais qui limitent aussi notre compréhension d'un territoire.
S'il y a une place, hein, moi, je veux bien faire des interviews.
Je crois
comme
qu'il y a beaucoup
tout.
De gens qui doivent lui demander déjà.
Ah. Il me faut beaucoup de place.
Ouais. Merci, Philippe Fimet. Vous reviendrez, j'espère, avec grand plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Grand plaisir aussi à écouter Cécile Bélanger, architecte, chef de projet associé à la Belle Friche. Il faut continuer, hein, parce que moi, j'y vois vraiment une grande lueur d'espoir pour l'habitat, pour que les gens aussi puissent se loger, tu vois. C'est-à-dire que les gens aient les moyens dignes et décents de se loger. C'est ça. Et pas des taudis qu'on voit encore, malheureusement encore aujourd'hui. Et là, je peux vous dire que voilà, je trouve que c'est intolérable. Mais de toute façon, ça viendra des gens. Les gens siffleront la fin de la partie. Et s'il y a des gens qui ont profité du système, eh ben, ils s'adapteront, comme tout le monde. Voilà. Merci à Emmanuel François, président de Smart Building Alliance. Tu sais que tu es chez toi ici, donc on va se revoir très très vite. On a des gros projets avec Emmanuel François. Oui.
Et je peux dire quelque chose à Cécile?
Oui, bien sûr.
Parce que ça va donner des idées à tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisation Terre de Liens.
Oui, on va. Ah. Excuse-moi, mais on
et
va
Terre
devoir...
de Liens, eh ben, je propose qu'on crée Terre de Friche.
Alors, voilà, bravo. Très bonne idée, parce qu'on va devoir couper justement. On est sur une plateforme de streaming. Merci à Anne-Solange, Miss Édition Terre Urbaine, mais aussi urbaniste et docteur en géographie. Merci. On se revoit de toute façon très vite. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez travailler le replay sur la plateforme d'Eventmaker pour les PropTech Digital Days. Merci.